coucher que lui en décachetant les missives. Il en était arrivé plusieurs à la fois, car, comme l'avait expliqué le vagmestre, on ne savait pas trop où vous étiez, les gars, alors ? Mais qu'importait ? Les lettres étaient enfin là, et il suffisait de regarder le cachet de la poste aux armées pour les lire dans le bon ordre. Il avait reconnu l'écriture de Marthe, avec un pincement au cœur. Une écriture élancée, belle, la même qui, jadis à l'école de Costeblanc, lui valait les félicitations du maître. Puis, il s'était laissé emporter par le texte, long, détaillé pour tout ce qui concernait les enfants et la ferme, mais bref, à propos des relations que Marthe entretenait avec sa belle-mère. Enfin, à partir de la troisième lettre, celle qui répondait aux siennes, outre les nouvelles générales, étaient venues des mots précis, amoureux, merveilleux, pour exprimer tout ce qui ne concernait que seule et leur intimité, qu'elle voulait lui dire et redire. Il n'avait pas pu lui répondre avec la même ferveur, avec des mots aussi brûlants et évocateurs. D'abord, parce qu'il ne se sentait pas capable de composer d'aussi beaux messages. Et malgré la situation, cela l'avait fait sourire, en lui rappelant que, contrairement à elle, il n'avait jamais été doué en rédaction, et qu'il n'avait pas obtenu son certificat d'études. Ensuite, à cause de la censure, qui l'obligeait à rester le plus sobre possible. Toute lettre était menacée de coups de ciseaux et son auteur puni s'il y était fait la moindre allusion aux engagements avec l'ennemi ou sur la position occupée par le régiment. Enfin, parce qu'il savait que ces lettres seraient d'abord lues par Marthe, mais qu'il eût été inhumain qu'elles ne le fussent point par sa mère et sa grand-mère. Elles aussi avaient le droit de dévorer les quelques lignes tant attendues. Alors dans ces conditions, il lui était apparu impossible d'écrire, même gauchement, tout ce qu'il eût aimé dire à Marthe, qu'elle lui manquait à tout instant, qu'il rêvait d'elle, de sa voix, de son sourire, de son regard, de son corps, qu'il brûlait du désir de la serrer dans ses bras et de l'aimer, l'aimer toute une nuit. Parce qu'il était impensable de confier de tels propos à des feuillets que trop de monde allait découvrir, il s'était efforcé d'expédier des messages laconiques, presque ternes. Certes, il n'oubliait jamais de prendre des nouvelles de tous et d'embrasser toute la famille, mais ça n'allait pas plus loin. Depuis, c'était Marthe qui, pour eux deux, se laissait aller à tout lui dire de ce qu'elle ressentait, de ce désir de lui qui l'empoignait souvent, trop souvent, lorsque, titubante de sommeil, elle mesurait soudain à quel point leur lit était trop grand, trop vaste, froid et vide. Bien entendu, sachant qu'il était aussi avide de savoir comment elle gérait la ferme, elle ne lui cachait rien de tout le travail qu'elle s'efforçait de faire du mieux possible, de toutes les difficultés qu'elle rencontrait et qu'elle devait surmonter. Chacune de ses lettres était tout à la fois un compte-rendu rigoureux et fidèle et un chant d'amour sans cesse renouvelé. Comme ces messages étaient devenus pour lui un formidable soutien, une aide permanente, c'est avec impatience qu'il les attendait. Et sa mauvaise humeur, voire sa colère, éclatait lorsqu'à la suite de quelques changements de position ou de cantonnement, elle tardait à venir. Mais une fois arrivée et relue 20 fois, elle lui permettait de résister au désespoir, de combattre les idées noires, de tenir. Mercredi 20 décembre 1916, ferme des Combettes, 22h30. Et si au moins j'étais certaine de dormir, pensa Marthe, sans interrompre son tricot, mais après avoir regardé la grande pendule. Elle venait de sonner le caverneux et unique coup de la demi, mais la grande aiguille était encore sur le chiffre 25. Ça aussi, Jean y remédiait quand il le fallait. Il avait le coup de main, pensa-t-elle. N'empêche, 10h30, il faudrait que je dorme. Mais elle savait qu'en dépit de sa fatigue, elle ne devait toujours pas rejoindre son lit. Il était encore beaucoup trop tôt pour que, sitôt allongée, le sommeil la terrasse, l'assomme. Seule chance pour elle d'échapper à l'angoisse, d'oublier tout et de reprendre quelques forces. Il faut pourtant que je sois debout à 5 heures si je veux avoir soigné les bêtes avant d'attraper l'omnibus de 7h06 à Noailles. Il faut que je sois prête quand Francette passera me prendre. Elle avait promis à une fidèle cliente de Brive de lui livrer 4 foie gras d'oie, 2 poulets et un panier de carottes et de poireaux. Car malgré la guerre, ou peut-être à cause d'elle, et en ce qui concernait les gens de l'arrière, le commerce et l'agriculture marchaient mieux que jamais. Et les prix de vente, qui ne cessaient de croître, ne faisaient en rien faiblir les demandes. Elles augmentaient toujours. Marthe mettait donc toute son énergie à fournir ce que lui commandaient les bourgeois de la ville. Aussi, passant outre tout le travail supplémentaire que cela lui demandait, elle s'était lancée, depuis l'année précédente et en saison, dans le gavage d'une douzaine d'oies. De même, avait-elle agrandi la basse-cour et le nombre des lapines. Mais parce que toutes ces occupations s'ajoutaient au travail habituel de la ferme, il était des soirs où, moulue de fatigue, elle se fût volontiers couchée dès la nuit venue, si elle avait eu la certitude de sombrer aussitôt. Sachant que cela tranquillisait Jean, elle lui assurait toujours dans ses lettres qu'elle s'endormait sans aucun problème. Jusqu'à ce jour, cela n'avait jamais été le cas. Dieu savait pourtant à quel point le travail journalier l'occupait 12 à 14 heures, car elle était maintenant presque seule pour effectuer toutes les tâches que demandaient les bêtes, les terres, les enfants, la maison. À tout cela s'ajoutaient, depuis 2 mois, les soins qu'exigeait le piètre état de sa belle-mère, beaucoup plus souvent alitée que debout. Octavine était très affaiblie par une mauvaise pneumonie, qui, d'après le vieux docteur Treillard, risquait de perdurer tout l'hiver. Certes, Louise et ses 10 ans et demi lui donnaient de solides coups de main dès qu'elle revenait de l'école. Même Albert était très dégourdi pour ses 9 ans. Plus courageux à la ferme qu'à la communale, elle pouvait compter sur lui pour garder les vaches et les brebis. Malgré ses aides, il était des jours où elle se souvenait du temps où, même en l'absence de Jean, le labeur était moins dur, moins pesant, car géré par Octavine, par la grand-mère et par elle. Or, la vieille Aurélienne était décédée l'hiver précédent, sans bruit, sans gêne pour personne, emportée dans la nuit pendant son sommeil.
Elle en a tellement fait pendant toute sa vie, avait soupiré le docteur Treillard, que son cœur en a eu assez de battre. Il s'est arrêté tout doucement, comme une horloge dont on n'a pas remonté le mécanisme. Enfin, consolez-vous, elle n'a pas souffert du tout, c'est certain. Voyez son visage comme il est reposé et serein.
Et Marthe, en l'observant, s'en était soudain voulu d'avoir, l'ombre d'un instant, envié la gisante qui, elle, n'avait plus ni soucis ni angoisses. Mais c'était là une pensée sordide qui, comme toutes les autres aussi sombres, devait être combattue. Repoussée avec la même énergie qu'elle avait dû mettre quand au soir du 2 août 14, elle avait mesuré à quel point toute sa volonté et sa ténacité ne suffisaient pas pour remplacer la force physique qui lui manquait. Cette force qui semblait si naturelle, si simple, lorsqu'elle émanait de Jean, et qui lui permettait, sans donner l'impression de beaucoup se fatiguer, d'abattre un travail considérable. Mais elle, en ce jour de moisson où elle avait dû reprendre la faux, avait cru, après moins de 2 heures de fauche, qu'elle allait devoir baisser les bras, reconnaître son incapacité à remplacer l'homme. C'est alors qu'elle avait regretté, une fois de plus, que ses parents, arrivés à la fin de bail à la Saint-Michel précédente, aient quitté la région attirés par un bon emploi. En effet, et en dépit de leur âge, 56 et 54 ans, ils avaient trouvé à se louer, son père comme jardinier, sa mère comme lingère, dans une grosse maison bourgeoise de la région de Sarlat. C'était très loin, et il ne pouvait donc lui être d'aucun secours. Moulu, dos et reins cisaillés par d'atroces et fulgurantes brûlures qui lui poussaient des râles au bord des lèvres, elle avait pourtant continué. Il est vrai qu'elle sentait sur sa nuque le regard narquois d'Octavine, qui, par moments et entre deux liages de gerbes, ne manquait pas de faire remarquer que le travail n'avançait pas vite. À l'entendre, au train où allait sa bru, elle en avait au moins pour 3 jours avant de venir à bout d'un carreau de blé que Jean eut.